Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. À quelques semaines du retour de la Grèce sur les marchés internationaux pour se financer, le pays poursuit ses réformes et notamment celles dictées par ses créanciers européens. La privatisation du port de Thessalonique après celle du Pirée et de celle-là, le deuxième port de Grèce, a été vendu à hauteur de 67% à un consortium franco-chinois-germano-russe. Thessalonique deviendra-t-elle la nouvelle porte d'entrée des Balkans, un maillon central de la nouvelle route de la soie mise en place par les Chinois pour exporter vers l'Europe? En attendant, le port a besoin de beaucoup d'investissements, 350 millions, et les syndicats sont dans l'expectative. Reportage sur place de Charlotte Stivenard.
Oui, bonjour, je suis Marc Riondel, je suis le directeur d'exploitation du port de Thessalonique et le directeur général du terminal conteneur de Thessalonique.
Et donc là, on s'approche...
Donc nous rentrons dans le terminal conteneur. Vous voyez ces portiques automatiques pour l'accueil des conteneurs. Ils prennent des photos pour vérifier s'il y a des avaries sur le conteneur. Nos premiers efforts... Dès la prise en main du terminal, ont été tournés vers la sécurité. Les progrès sont rapides, mais nous souhaitons acquérir un niveau réellement international et il y a encore un certain nombre d'efforts à faire.
Calimera !
Le port de Thessalonique est une affaire qui a du potentiel. De 2016 à 2017, le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de près de 13%, notamment grâce à une augmentation du trafic de conteneurs. Mais le sous-investissement de ces dernières années reste un lourd handicap. C'est ce qu'a pu constater le consortium peu après son arrivée aux affaires fin mars. Il a annoncé qu'il devrait injecter 27 millions d'euros de plus que prévu, explique Marc Riondel.
Nous savions que l'équipement était désuet. Mais nous n'avions pas anticipé un tel niveau technique de désuétude dans les équipements. Il y a eu un manque de maintenance très significatif pendant les 5 dernières années. Et c'était effectivement quelque chose d'inattendu pour nous. Donc nous lançons en urgence des chantiers de réhabilitation des équipements. C'est difficile parce que ce matériel est ancien, donc souvent difficile de trouver des pièces détachées, difficile de trouver l'expertise à proximité, pour l'instant du moins.
Pour les syndicats, curieusement, c'est seulement après la privatisation que la question du sous-investissement a été mise en avant. Pour Lazaros Tandalidis, président du syndicat des opérateurs de machines et grutier depuis 15 ans, ces dernières années, le port a été dévalué à dessein.
L'objectif était clair, faire perdre de la valeur au port pour sécuriser la vente au privé et dire ensuite que les services gérés par l'État sont mauvais, qu'ils ne peuvent pas faire d'investissement. Mais il a été prouvé que l'État peut faire des investissements qui plus tard lui apporteront des revenus.
Tous les syndicats étaient opposés à la privatisation, explique Fanny Gourgouri dans son bureau. La présidente du syndicat des employés administratifs du port explique que désormais la vente est signée, il faut donc avancer.
Nous estimons que dans la nouvelle configuration, il y a deux choses urgentes. La première, c'est que les investissements aient lieu, aussi bien en ce qui concerne les équipements électromécaniques que les infrastructures. La seconde, ce sont les recrutements. Ils sont nécessaires dans le respect total du droit du travail.
Le respect du droit du travail inquiète depuis la privatisation du port du Pirée, racheté par Cosco. En 2008, quand le géant chinois du fret maritime avait acquis un premier terminal à conteneurs, il avait été très critiqué par les syndicats pour offrir des salaires bas et des contrats précaires. À Thessalonique, la direction se veut rassurante, mais les travailleurs sont dans l'attente, comme ses deux collègues qui préfèrent ne pas donner leur nom.
L'important, c'est qu'ils respectent la valeur des travailleurs. Bien entendu, le plus important pour nous, c'est notre salaire. Mais il y a des choses aussi capitales, comme la dignité des travailleurs. Tu veux avoir de bonnes conditions de travail.
Pour moi, ce qui est important, ce sont les horaires. Nous travaillons de 7h30 à 15h. Je n'aimerais pas que cela passe de 9h à 17h. Le plus important, c'est d'avoir du travail.
Alors que la crise n'est pas finie, l'inquiétude est toujours là pour les 330 employés. Un port de taille moyenne donc, mais qui pourrait jouer un rôle plus important à l'avenir. Terminal Link, un des repreneurs, est une entreprise française et chinoise aussi, détenue en partie par China Merchant Holdings International, premier opérateur portuaire public en Chine. Le port de Thessalonique fera-t-il partie de cette fameuse route de la soie, aussi appelée One Belt, One Road, une suite d'investissements sur l'ancienne route du même nom jusqu'en Europe, pour permettre à la Chine d'y étendre son influence économique. Boris Wenzel, le directeur général de Terminal Link, reste prudent.
Pour l'instant, non. Et bon, Terminal Link reste vraiment une société française. J'insiste, on a des partenaires chinois, mais ça reste une société dont le siège est en France, dont le management est, bon, est surtout français. Les China Merchants sont des partenaires financiers. Mais effectivement, bon, aujourd'hui, nous avons tenu le board de Terminal Link ici à Thessalonique. Donc ça a permis vraiment de montrer le potentiel de ce port autant à la ligne qu'aux partenaires chinois. Et donc on va voir, effectivement, ça peut peut-être déboucher à ce qu'ils l'inscrivent sur One Belt, One Road. Donc ça deviendrait un point de focus pour des investisseurs chinois et pour le développer dans le contexte des routes de la soie, quoi.
Alors que le port cherche à rattraper son retard, il se concentre d'abord sur la mise à niveau des équipements désuets. Le consortium a annoncé que les investissements obligatoires ne débuteraient que début 2019. Objectif, relier le port à l'arrière-pays, notamment Sofia et Skopje, la porte d'entrée des Balkans.
La campagne pour les élections législatives et présidentielles du 24 juin en Turquie a déjà commencé et le vote également pour les Turcs résidant à l'étranger. Une population qui est désormais très courtisée par l'équipe du président Recep Tayyip Erdogan. À Istanbul, Anne Andlauer nous explique pourquoi.
Les électeurs turcs de l'étranger sont importants d'abord parce qu'ils sont nombreux, environ 3 millions, sur un total de 59 millions de Turcs appelés à voter le 24 juin. Recep Tayyip Erdogan est bien placé pour le savoir, c'est lui qui leur a donné le droit de vote, pour la première fois en 2014 à l'élection présidentielle qu'il a portée au sommet de l'État. Ces 3 millions d'électeurs sont d'autant plus importants qu'ils peuvent faire la différence si le score est serré. L'an dernier, lors du référendum sur la réforme instaurant un régime hyper-présidentiel, Recep Tayyip Erdogan l'avait emporté avec un peu moins d'1 400 000 voix d'écart. C'est justement le nombre d'électeurs de l'étranger qui s'étaient déplacés. Bien sûr, tous n'ont pas dit oui à ce nouveau régime qui doit entrer en vigueur après les élections de juin, mais proportionnellement, les Turcs de l'étranger ont été beaucoup plus nombreux que ceux résidant en Turquie à plébisciter la réforme. 59% de oui hors de Turquie contre 51,4% en Turquie. Tayyip Erdogan essaie tout particulièrement de mobiliser ses concitoyens résidant en Europe, dans les pays de migration ancienne. Il sait que cet électorat lui est bien souvent favorable, car plutôt conservateur. Pour s'en convaincre, encore une fois, il n'a qu'à regarder en détail les résultats de l'an dernier. En Allemagne, 63% des Turcs avaient dit oui à sa réforme, 65% en France, 71% aux Pays-Bas, 73% en Autriche, 75% en Belgique. Plus les Turcs de ces pays iront voter le 24 juin, plus l'actuel président aura de chances d'être réélu et de conserver sa majorité dans un double scrutin qui s'annonce justement particulièrement risqué pour lui.
Et un scrutin d'autant plus incertain que plusieurs pays européens ont refusé la tenue de meetings sur leur territoire pour le président Erdogan et son parti AKP. Des pays européens comme les Pays-Bas, l'Autriche et l'Allemagne qui comptent une forte communauté turque. En Allemagne, la décision a permis d'éviter les tensions, comme l'a expliqué à Julien Michossi Phyllis Polat, député écologiste d'origine turque au Bundestag à Berlin.
Dans le passé, le gouvernement de l'AKP a réussi à de nombreuses reprises à se faire passer pour une victime, avec comme argument le non-respect des droits démocratiques en Allemagne, comme celui de mener campagne. Mais si le gouvernement allemand ne souhaite pas accueillir de meetings de campagne électorale, c'est uniquement pour garantir l'ordre et la sécurité. Nous avons assisté ces dernières années à des campagnes menées personnellement par Erdogan en Allemagne, des campagnes très agressives, aux accents populistes, lesquelles ont entraîné de profondes divisions au sein de la communauté turque en Allemagne.
Erdogan s'est rendu il y a quelques jours, quelques semaines à Sarajevo en Bosnie-Herzégovine et il a appelé depuis Sarajevo les Turcs vivant en Europe à siéger au sein des parlements et prendre la place de ceux qui auraient trahi leur pays, donc des personnes d'origine turque. Avec ces mots, Erdogan vous décrit, vous aussi directement, comme quelqu'un qui aurait trahi son pays. Quelle est votre réaction quand vous entendez ces propos-là ?
Ce n'est pas nouveau. C'est une stratégie pratiquée depuis plusieurs années. Dès que l'on s'exprime de manière critique en tant que parlementaire d'origine turque à propos de la politique menée par Erdogan ou que l'on prend position sur le génocide arménien, on est immédiatement qualifié de traître. Ce qui m'inquiète bien plus, c'est qu'il ait fait cette déclaration depuis Sarajevo, depuis un pays des Balkans, une région où plusieurs pays souhaitent faire leur entrée dans l'Union européenne et Erdogan, par sa présence, essaie de les en éloigner et de rapprocher ces pays de la Turquie.
Si l'AKP et Erdogan gagnent les élections, est-ce que la Turquie se dirige de manière définitive vers un régime autoritaire, voire une dictature ?
Si Erdogan remporte ce scrutin, la déception sera immense. Cela risque de porter un coup fatal aux dernières forces de l'opposition en Turquie, aux dernières personnes qui se battent pour les droits de l'homme et la liberté de la presse. Erdogan aura les coups des franges pour faire taire ses derniers opposants et renforcer encore plus les structures de son pouvoir. Jusqu'où est-il prêt à aller ? C'est bien difficile de le prédire, mais il suffit de regarder le nombre de personnes en prison sans réel motif pour saisir la gravité de la situation. Et malheureusement, il faut s'attendre au pire.
Phyllis Pollat, députée allemande d'origine turque au micro de Julien Méchaussier à Berlin. Le budget européen d'après Brexit sera donc revu à la baisse, c'est pour cause. Le Royaume-Uni, deuxième contributeur net de l'UE, ne mettra plus la main au porte-monnaie. Résultat, 10 milliards en moins sur un budget de 158 milliards. La politique agricole commune et les fonds de cohésion pour compenser les écarts de richesse entre régions seront directement touchés en baisse de 5% en moyenne. En Belgique, la Wallonie a beaucoup bénéficié de ces fonds structurels à hauteur de 300 000 euros pour la période 2014-2020. Un budget consacré à la reconversion industrielle. C'est le cas à Herstal du Tropical Plant Project, un vaste laboratoire de recherche sur les plantes médicinales. Alice de Baptiste de la RTBF a rencontré Pierre Lejeune, responsable botanique de ce projet.
C'est une plante qui produit du latex et ce latex contient des substances irritantes. Et parmi ces substances, il y en a certaines qui sont mitocides, c'est-à-dire qu'elles inhibent la division cellulaire, ce qui peut être intéressant pour traiter certains cancers.
C'est donc cette substance précieuse qui est au cœur des attentions. Les scientifiques essayent ici de déterminer les conditions dans lesquelles les plantes en produiraient le plus. Et pour ça, ils les font passer d'une chambre à une autre.
Donc ici, on a une température de 10 degrés. Et donc notre espoir, c'est qu'en stressant la plante, comme les molécules qui nous intéressent sont des molécules de défense, on pense que leur production va être augmentée par des stress physiques, par exemple, comme le froid, le chaud, la sécheresse.
Une fois conditionnées, elles sont méticuleusement analysées dans le laboratoire de l'équipe de Michel Frédéric. Pour les retrouver, il ne faut pas aller bien loin. Leurs bureaux sont à 2 minutes de route dans les bâtiments du CHU de Liège.
Une fois que les plantes quittent la serre de M. Pierre Lejeune, elles arrivent ici, dans votre laboratoire. Quel type d'expérience, à ce moment-là, vous menez sur ces plantes ?
Et donc nous, on essaye d'identifier dans ces plantes des produits qui pourraient être intéressants, donc je voudrais dire d'intéressants d'un point de vue valeur ajoutée à l'intérieur de ces plantes. Bon, évidemment, on parle des œuformes ici, donc il y a déjà un produit qui est identifié, qui est l'agénol mébutate, qui est un anticancéreux qui est utilisé dans les cancers de la peau. Mais notre objectif ici dans le projet aussi, et plus spécifiquement, c'est d'identifier à côté de ce composé d'autres produits qui seraient intéressants, qui seraient nouveaux, qui seraient originaux et qui pourraient aussi être valorisés comme médicaments.
Ces plantes aux vertus médicinales multiples grandiront dans la plus grande serre du pays. Elles devraient voir le jour sur les anciens sites des ASEC à Herstal. Aujourd'hui, il ne reste que de grands hangars désaffectés, mais la zone est en pleine mutation. Cette transition industrielle est au centre du projet. C'est ce que nous explique Kim Nguyen, que nous retrouvons sur place.
Le cœur du projet Tropical Plant Factory, c'est vraiment de recréer de la valeur et quelque part de transformer des menaces en opportunités. On a plus de 10 000 hectares de friches industrielles en région wallonne. L'objectif ici, c'est de recréer de la valeur sur ces sites, qu'elle soit économique mais également environnementale.
Cette valeur environnementale sera basée sur l'énergie circulaire. Pour chauffer leurs serres, les scientifiques veulent récupérer la chaleur de l'incinérateur d'Herstal, un projet multidisciplinaire qui aurait eu du mal à voir le jour sans un coup de pouce européen, selon Kim.
Ça aurait peut-être pu être possible, mais ça aurait été beaucoup plus compliqué. Parce qu'en fait, à ce moment-là, il faut vraiment trouver un partenaire ou des partenaires industriels qui sont prêts à donner clairement leurs besoins en termes de chiffres, etc., qui seraient prêts à le financer. Maintenant, ça aurait pris aussi beaucoup plus de temps, a priori, de réunir toutes ces équipes ensemble. Ici, le fait qu'il y ait un projet FEDER, c'est quelque part un potentiel financier important en une seule fois qui permet de vraiment regrouper tout le monde et de travailler tous en même temps. Donc je pense qu'en fait, ça permet d'avancer plus vite.
Les premières euphorbes devraient pousser sur les plaines d'Herstal d'ici 2020, une année qui marquera la fin du programme européen. Les scientifiques le confient, ils tenteront leur chance pour les 6 prochaines années.
Écoute ce disque. Écoute ce disque.
Et c'est l'heure de notre chronique musique avec vous, Vincent Théval. Bonjour Vincent.
Bonjour Frédéric.
Et vous revenez sur le deuxième album d'AVSS Cyclone.
Petite séance de rattrapage aujourd'hui avec un album qui est paru en janvier, mais comme le trio qui en est l'auteur a mis 5 ans à le concevoir et que certaines des chansons qu'on y entend ont plus de 10 ans, on est sûr que quelques mois de retard ne l'auront pas périmé. Le groupe en question s'appelle AVSS Cyclone. Comme son nom l'indique, il était espagnol et il est hébergé par le mythique et très actif label indépendant Aquarella qui avait publié en 2013 le premier disque de ABSS Cyclone. En réalité, un recueil de maquettes enregistré en 2 jours dans un registre rock dépouillé et ralenti. Pour leur deuxième album, les Espagnols n'ont pas vraiment accéléré le pouls de leurs chansons, mais ils en ont davantage travaillé le son et les textures. Et la base, guitare, basse, batterie est enrichie de percussions, claviers ou cuivres. Une volonté de sortir de sa zone de confort qui donne à ce beau Kumbaya un charme sans âge.
Du trio AVSS Cyclone, Accent d'Europe, était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission, et sur les réseaux sociaux. On se retrouve dès lundi.